disciples de Jésus-Christ. Dès le premier chapitre des Actes des Apôtres, elles font partie du groupe des 120. Avec les apôtres, avec les hommes, il y a ces femmes qui sont venues au Christ. Et Luc écrit au chapitre 1, versets 12 à 14, « Alors les apôtres quittèrent la colline qu'on appelle Mont des Oliviers, située à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et rentrèrent en ville. » Vous savez, ils viennent de recevoir les instructions du Seigneur Jésus au moment où ils partaient, en disant, voilà, vous vous restez là, préparez-vous, le don de l'Esprit Saint viendra. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. Et nous avons ensuite le nom des apôtres. Je saute, j'arrive au verset 14. Il nous a dit, eux tous, on pourrait s'imaginer eux tous seulement les apôtres qui étaient des hommes, mais eux tous, ici nous renvoient, et nous allons le voir à la suite, à tous les disciples qui étaient là, hommes et femmes. Eux tous, d'un commun accord, l'homme ne va pas sans la femme, les femmes ne vont pas sans l'homme, et Dieu a voulu dans sa grâce que son peuple soit un peuple qui est constitué, n'est-ce pas, comme au commencement, des hommes et des femmes. Eux tous, d'un commun accord, se retrouvaient souvent pour prier avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. J'aimerais nous faire remarquer que la traduction « quelques femmes » peut donner l'impression qu'il s'agit seulement d'une poignée de femmes. Mais gardons à l'esprit que le texte grec utilise simplement l'expression « des femmes ». Pas « quelques femmes », mais « des femmes ». De manière indéfinie. Le fait important ici, c'est qu'avec les apôtres, dès le commencement, avant même la Pentecôte, dans le livre des Actes des Apôtres, se trouvent des femmes que nous connaissons par ailleurs par les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc. Mais ici, il plaît à Luc de nommer l'une d'entre elles. Certainement à cause du dessein unique, singulier, que Dieu lui a réservé. Parmi ces femmes, il nous dit qu'il y avait Marie, la mère de Jésus. Et c'est la dernière mention qui soit faite d'elle dans le Nouveau Testament. On ne nous dit rien de Joseph ici, et la plupart des commentateurs s'accordent pour dire que certainement Joseph était déjà décédé. Et donc Marie était une femme veuve, endeuillée. Quelques décennies après la joie du premier Noël, et nous en reparlerons, elle était là. Et elle n'a pas abandonné la foi lors du Vendredi Saint, alors qu'une épée douloureuse blessait son cœur. En ce premier dimanche de l'Avent, s'ouvre pour les églises le chemin vers la célébration de Noël. Il est bon de nous rappeler que le Christ Sauveur et Seigneur que nous célébrons chaque dimanche, lui, le Verbe éternel de Dieu qui s'est fait chair, la parole devenue chair, est né de la Vierge Marie. Et l'Écriture nous dit qu'elle sera appelée bienheureuse par toutes les générations. J'ai souvent entendu dire que les protestants ne connaissent pas Marie. J'ai souvent même entendu des évangéliques pour expliquer la différence entre eux et les catholiques, dire « mais oui, non, Marie, ça ne compte pas beaucoup. » Je crois que nous lisons mal le témoignage de l'Écriture. Non seulement le témoignage de l'Écriture nous la présente comme aussi un modèle de foi, mais en même temps nous invite à reconnaître le dessein singulier qu'elle a eu puisqu'elle est appelée par l'Écriture bienheureuse et pour les générations de générations. Pour ne rien vous cacher, alors que je mettais un point final à mon message ce matin, j'ai reçu un texto de France, notre sœur France que j'appelle par ailleurs. France a de nombreux amis et souvent elle leur partage ses méditations, ses pensées. Et ce matin, j'ai été parmi les destinataires, ceux qui ont reçu une pensée de France, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est bien dit, je suis d'accord avec. Si elle est d'accord, j'aimerais la lire ou encore lui donner la parole. Alors France est d'accord pour nous dire un peu la pensée qu'elle a écrite ce matin, premier dimanche de l'Avent, et ensuite elle allumera la première bougie de l'Avent pour nous ce matin.
Paul m'a dit qu'il avait oublié son portable, donc il me demande de lire à sa place. Une pensée que j'ai eue ce matin en me réveillant, parce que c'est le premier dimanche de l'Avent. Et pour ceux qui ne savent pas, l'Avent, c'est avant Noël. Donc c'est le premier dimanche, et bientôt ça sera Noël. Lorsque l'ange de l'Éternel a visité Marie, lui expliquant que le projet de Dieu était de lui confier le soin de porter et de donner naissance au Fils de Dieu, Marie lui a répondu « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Mais, il y a un mais elle a dû demander à l'ange comment elle pourrait mettre au monde la semence de Dieu, parce qu'elle n'était pas du tout qualifiée pour ça. Dieu devait prouver qu'il était capable de faire quelque chose à partir de rien. Et le oui de Marie l'a positionnée pour porter Jésus en elle. Jésus, le sauveur du monde. Jésus, la lumière du monde. Avec elle, Marie, le Saint-Esprit a trouvé un lieu d'influence, des entrailles où il a pu s'établir. Marie s'est humiliée, se rendant la servante du Seigneur. Et en retour, elle a reçu l'onction pour donner naissance à la parole faite chair, comme nous dit l'apôtre Jean. Marie n'a pas regardé ses circonstances avec le regard humain. Marie n'a pas choisi la sagesse humaine. Marie a laissé l'Esprit la couvrir et a porté en elle la promesse et la parole de Dieu. Il n'y avait pas de place pour elle dans l'hôtellerie. Mais elle a choisi de faire de la place à Dieu en elle. C'est l'Esprit qui nous donne la force d'accomplir ce qui est déposé en nous. Il peut faire quelque chose de formidable à partir de rien lorsque nous lui donnons humblement notre oui. Oui, mes sœurs, nous sommes les servantes. Et mes frères, vous êtes les serviteurs. Qu'il en soit fait selon la volonté. Laisse-nous porter tes paroles, Seigneur. Laisse-nous les vivre et briller de ta vie comme des flambeaux dans le monde. Car rien n'est impossible à Dieu, dit Luc. Et puis dans le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi, que tout ce qui est en vous, bénisse son saint nom. Amen.
Laisse-nous, Seigneur, porter ta parole. Et que nos vies brillent de la beauté et de la grâce de Dieu, en signe d'espérance. Alors que nous avançons vers Noël, notre sœur France allume cette première bougie qui nous rappelle que la lumière, celui qui est la lumière du monde, est venu. Née de la Vierge Marie, qui a dit « Oui, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit faite selon ta parole ». Et pendant que je vous le dis, je pense, si alors il est vrai qu'elle était veuve, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus un mari dans une société où les hommes les protégeaient, Alors elle nous renvoie aujourd'hui à toutes les autres figures de Marie de nos communautés. Je pense à mes frères et sœurs d'Ukraine, de nombreuses femmes restées seules dorénavant sans leur mari, certains morts à la guerre, certains encore absents, de nombreux enfants loin de leurs parents. Et pourtant le Seigneur ne vous oublie pas, le Seigneur ne nous oublie pas. Comme Marie a persévéré après la croix et a trouvé au sein de cette église de Jérusalem le soutien de la communion fraternelle. Ainsi, je veux vous dire merci d'être au sein de l'église. Merci de vivre la communion fraternelle au-delà des frontières de l'Ukraine. Et nous sommes de tout cœur avec vous. Les maris de notre temps, c'est aussi toutes ces sœurs en Christ qui connaissent la solitude parce que veuves. On ne parle pas assez du veuvage dans nos églises. Et pourtant, nous avons bien de personnes qui vivent cette épreuve difficile. Je suis moi-même orphelin et j'ai vu le chemin de deuil de ma maman quand mon papa, 65 ans, est parti. Ma maman est catholique, je vous l'ai dit. Et j'ai vu combien le témoignage de foi de Marie a inspiré son chemin vers le Christ. Je pense aussi à toutes ces femmes qui sont divorcées, toutes ces femmes qui élèvent leurs enfants parfois sans papa. Je veux dire, là aussi, une figure d'exemplarité, une figure de foi nous est proposée. Et il est important que dans l'Église, nous puissions ne pas laisser dans les angles morts les maris de notre génération. Je voudrais vous dire combien le Seigneur, à travers cette figure de foi, est capable de vous dire qu'il vous comprend, est capable de vous dire qu'il prend soin de vous. Et il veut encore le faire aujourd'hui. Mais ça ne peut pas être par notre chair. Ça ne peut pas être par le fait simplement d'avoir enfanté biologiquement ou de ne pas avoir enfanté. Dieu fait de nous des fils et filles de son royaume par son Esprit Saint. Dans Jean chapitre 1, verset 12, il nous a dit qu'ils ne sont plus nés de la chair, mais nés de l'Esprit. Et c'est l'Esprit Saint, le même Esprit qui est donné aux apôtres, que le Seigneur donne ici dans le livre des Actes à toutes les femmes, disciples de Jésus qui sont au milieu d'eux. Actes chapitre 2, où il est question du don de l'Esprit Saint répandu sur les disciples de Jésus, hommes et femmes, disciples de Jésus, l'apôtre Pierre rappelle alors que la promesse du don de l'Esprit n'était pas réservée à une catégorie du peuple, mais à tous ceux qui croiraient. Et voici le texte qui est affiché. « Voici, dit l'apôtre Pierre, ce qui arrivera, dit Dieu. » Pierre cite ici le prophète Joël. « Dans les jours de la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur tout le monde, au sein du peuple de Dieu. Vos filles prophétiseront, vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens. » Et on était hier ici avec des jeunes gens, une centaine. New Brits, auront des visions. Vos vieillards, par des songes, recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs, comme sur mes servantes. Je répandrai de mon esprit, et en ces jours-là, ils prophétiseront. Nous ne pouvons pas ne pas avoir hommes et femmes, jeunes et vieux, comme l'Église rassemblée par Jésus-Christ, pour que chacun soit capacité par l'Esprit du Seigneur. Nous ne pouvons pas, et l'Église ne peut pas se priver de plus de 50% de la composition de l'humanité. Nous ne pouvons pas considérer que le Saint-Esprit ne les capacite pas autant que nous. Et nous avons besoin, jeunes et moins jeunes, de nous accueillir et de nous reconnaître comme étant capacités par le même Esprit Saint qui était sur les apôtres. Amen. Amen. En tant que papa de trois filles et d'un garçon, j'aimerais que mon garçon et mes filles grandissent en sachant que tout est possible avec Dieu. En sachant que le fait qu'ils soient garçons ou filles ne les disqualifie d'aucun ministère selon le Seigneur. De manière en sorte qu'ils puissent accueillir avec assurance et avec confiance, la plénitude de l'agir de Dieu dans leur vie. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire que mon fils et mes filles ont une promesse dans cette écriture. Joseph, tu as une promesse selon cette écriture. Abigail, tu as une promesse selon cette écriture. Eunice, Junia, vous êtes capables de parler les merveilles de Dieu. Vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce que moi, en tant que parent, je prie pour que mon fils, ma fille soit prophète? Est-ce que je dis, Seigneur, que les enfants que tu m'as donnés soient rendus capables de voir tes merveilles dans leur vie, et non seulement de voir tes merveilles dans leur vie, qu'ils soient rendus capables de croire que tu les as capacités pour annoncer les merveilles de Dieu? Est-ce que je prie pour que le Seigneur dispose comme il voudra d'un ministère pour eux? Il y a dans le livre des Actes des Apôtres, Luc, au chapitre 21, nous parle par exemple de la famille de Philippe. Philippe était l'un des 7 diacres choisis avec Étienne, un homme rempli du Saint-Esprit. Et Philippe avait 4 filles. Et les 4 filles de Philippe étaient célibataires, nous dit l'Écriture. Oh, je pense aux parents qui ont des filles qui ne sont pas encore mariées. Et je pense aux filles qui ne sont pas encore mariées. Eh bien, ça ne les a pas empêchées, vous voyez quoi? Elles n'ont pas vécu le célibat comme une honte. Elles n'ont pas vécu le célibat comme une incapacité. Elles n'ont pas vécu le célibat comme une vulnérabilité. Mais la Bible nous déclare que les 4 filles de Philippe étaient des prophétesses. Amen. Waouh! Quel père béni! Il n'a peut-être pas eu un fils. Il a eu 4 filles. Et 4 filles qui étaient capables de donner la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Voilà ce qui compte pour moi en tant que papa. Que mes enfants soient rendus capables, Seigneur, de t'aimer et de donner ta parole et de donner ta pensée, fille ou garçon. Et ce qui compte pour toi, ma sœur, peut-être qu'il te lamente, tu dis, Seigneur, m'as-tu oublié pour le mariage? Seigneur veut te dire que je ne t'ai pas oublié, mais je t'ai donné ma parole et je t'appelle à vivre d'abord cette parole. Ce n'est pas le mariage qui te définit, ce n'est pas le couple qui te définit, c'est ce que tu vis avec moi. Pour moi, tu n'es pas une personne moins quelqu'un ou moins quelqu'une. Pour moi, tu es totalement créé à mon image et totalement capacité pour vivre heureux et heureuse avec moi. Même quand parfois, cette solitude conjugale n'est pas une solitude choisie, mais une solitude subie, le Seigneur te dit, je continue à vouloir te bénir et à vouloir faire de toi, comme les filles de Philippe, prophétesse du Seigneur. Notre Église a besoin des hommes, des femmes comme Philippe, qui donnent confiance à leurs enfants pour qu'ils soient prophètes et prophétesses du Seigneur. Encore aujourd'hui, il y avait à Césarée un homme appelé Philippe. Il faisait partie des 7. Il était prédicateur de l'Évangile. C'était l'un des 7 hommes que l'on avait élu à Jérusalem. Et les apôtres ont logé sur lui. Et il avait 4 filles non mariées qui étaient prophétesses. L'Esprit capacite hommes et femmes au sein de la communauté des disciples de Jésus à annoncer les merveilles de Dieu. Un autre exemple qu'on trouve dans Actes chapitre 9, versets 36 à 43, c'est l'exemple de Tabitha. Nous avons une Tabitha dans l'église. Hein? Alléluia, sois béni Tabitha. Tabitha ou Dorcas. Ce nom vient d'Actes chapitre 9, versets 36 à 43. On lit qu'à Jaffa vivait une femme disciple du Seigneur. Une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha. Et en grec, on nous dit Dorcas. Ce qui signifie la gazelle. Waouh! Les canons de beauté ont changé. Hein? À l'époque, on te comparait à une gazelle. Aujourd'hui, si on te compare à une gazelle, je ne sais pas, peut-être tu peux aller déposer plainte en disant, mais hein, il m'a rangé dans la catégorie animalière. Non, ici, ce n'était pas le cas. C'était pour dire sa grâce, son élégance. Ça inspirait les poètes, la gazelle. Ça inspirait des peintres. C'est pour dire sa beauté. Et Tabitha était donc cette femme, appelée Dorcas en grec, la gazelle. Elle faisait beaucoup de bien autour d'elle et venait en aide aux pauvres. À cette époque, elle tomba malade. Ah, le service de Dieu ne nous empêche pas de rencontrer l'épreuve. Le service de Dieu ne nous blinde pas contre l'épreuve de la vie et la maladie est une épreuve redoutable. Certains parmi nous vivent cette épreuve douloureusement. Et elle est morte, Tabitha Dorcas, des suites de maladie. Une chrétienne est morte des suites de maladie. Après avoir fait sa toilette funèbre, c'était les rites funéraires, et cette parole atteste qu'elle était bien morte. Et ils ont fait les rites funéraires. qui attestent que ce n'était pas juste un état limite. Elle était bien morte. On la déposa dans la chambre, au premier étage de sa maison. Or, les disciples apprennent qu'un certain Pierre, apôtre de Jésus-Christ, est à Lydde. Et ils vont envoyer de Jaffa vers Lydde, à peu près 3 heures de marche, des hommes s'empresser pour aller chercher Pierre. 3 heures à l'aller, 3 heures au retour, ça fait 6 heures. Pourquoi ils font ça? Parce que les disciples avaient appris que Pierre se trouvait là. Ils lui envoyèrent donc 2 hommes pour l'inviter en lui disant « Dépêche-toi de venir chez nous ». Pierre les suivit aussitôt. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre. Toutes les veuves qui étaient dans l'église, les veuves qui étaient comme Tabitha l'était sans doute, elles avaient un ministère dans l'église, leur vie n'était pas finie. Leur ministère n'était pas fini. Toutes les veuves l'accueillirent en pleurant et lui montrèrent les robes et les autres vêtements que Tabitha avait confectionnés quand elle était encore des leurs. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux, aperçut Pierre et s'assit. Celui-ci lui donna la main et l'aida à se lever. Puis il rappela les croyants et les veuves et la leur présenta vivante. La nouvelle eut vite fait le tour de la ville et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta quelque temps encore à Jaffa et il logeait chez un tanneur nommé Simon. Nous sommes ici en présence d'un témoignage de foi remarquable. D'abord parce qu'il met en exergue la piété d'une disciple femme. C'est le seul passage de tout le Nouveau Testament où le mot disciple est écrit au féminin. Seul passage. La seule fois, première et dernière fois où ce mot de disciple, mathétès, est mis au féminin, concerne Tabitha, donc Dorcas. Et c'est important de souligner cette spécificité, parce que dans nos représentations, quand on dit un disciple, on pense naturellement disciple égale que les hommes. Et Luc a pris le soin d'écrire une disciple, ce qui était très rare, et c'est le témoignage unique. Une disciple du Seigneur du nom de Tabitha. Cette disciple femme vivait donc dans cette région portuaire de Jaffa et encore aujourd'hui, un lieu important stratégique pour accéder, n'est-ce pas, en bateau par exemple jusqu'à la terre palestinienne ou israélienne, je ne sais plus jamais comment dire avec tous les désordres d'aujourd'hui, dont vous mettrez le nom comme vous pensez. Mais ce qui est important, je reviens à ça, c'est que le texte grec dit littéralement de cette disciple au féminin qu'elle était remplie de bonnes œuvres et d'aumônes qu'elle faisait. C'est incroyable, parce que Luc a pris un verbe qu'on connaît beaucoup, il aime beaucoup ça, Étienne rempli du Saint-Esprit, Pierre rempli du Saint-Esprit, Philippe rempli du Saint-Esprit, Tabitha rempli. Alors on va dire, mais vous voyez, elle n'est pas remplie du Saint-Esprit. Mais non, Luc va directement à ce que produit le Saint-Esprit en elle. Elle était remplie d'œuvres bonnes et d'aumônes qu'elle faisait. Tabitha est une foi comme Jacques aime, une foi qui se concrétise dans des œuvres bonnes. On n'est pas sauvé par les œuvres bonnes, mais la foi produit les œuvres bonnes. Et cette femme qui s'appelle Tabitha et Dorcas montre que sa foi en Jésus-Christ et la plénitude de l'Esprit-Saint devenaient aussi en elle une plénitude de miséricorde. France nous a parlé de ses entrailles, lieu d'influence du Saint-Esprit. Elle a été influencée positivement par l'Esprit du Seigneur, qui l'a élargie. Et elle a pris ses biens et elle a mis tout ceci au service de ceux qui étaient peut-être moins bien lotis qu'elle. Elle cousait des vêtements pour des veuves, peut-être même pour des orphelins. Elle prenait soin des frères et sœurs de sa communauté. L'Esprit Saint a alors conduit Tabitha à être un pilier de la communauté des disciples qui se rassemblaient à Jaffa. Nous avons ici le témoignage de la reconnaissance de sa foi. Nous avons ici le témoignage de la reconnaissance de sa générosité. Je dirais même la reconnaissance de son ministère de secours, ou si vous voulez, son ministère d'assistance des bien-aimés. Frères et sœurs, t'es-tu déjà posé la question suivante? Comment j'aimerais qu'on se souvienne de moi? Comment j'aimerais que mon église se souvienne de moi? T'es-tu déjà posé cette question? N'attends pas la fin de ta vie pour réfléchir à cette question. Ce que tu vis maintenant est en train de préparer la façon dont on se souviendra de toi. Si maintenant tu es un casse-pied, on se souviendra de toi comme un casse-pied. Si aujourd'hui tu es un colérique, on se souviendra de toi comme colérique. Alors vous savez que les morts paraissent toujours plus beaux et les épitaphes, mais personne ne s'y trompe. Quand on est auprès d'un mort et qu'on entend l'évocation de sa vie, les gens ne sont pas idiots. Vous pouvez bien mettre les mauvais caractères sous le tapis, mais les gens se disent, bon, ouais, on a fait ça, hein, par compassion pour les autres, hein. Mais qu'est-ce qu'il était mauvais ! Waouh ! Comment on se souviendra de moi ? Comment on se souviendra de toi ? Il ne s'agit pas de conformer sa vie au regard et à la pression du groupe social, mais il s'agit d'avoir conscience que nos vies ont une trace, que nos existences laissent une trace, que quoi que tu fasses, tu laisses une couleur au monde, que quoi que tu fasses, tu laisses un témoignage au monde. Tabitha et Dorcas, on l'a pleuré, on l'a regretté. Et ce qui est incroyable, on aurait pu aller chercher Pierre pour venir ressusciter Étienne, mort en prêchant comme moi. Mais ce n'est pas lui. On est allé chercher Pierre pour ressusciter une femme. On se souvenait des vêtements qu'elle faisait pour l'église. On se souvenait de son amour. On se souvenait de sa générosité. Il n'y avait pas deux Tabitha dans cette église. Ils ont dit, Pierre, s'il te plaît, invoque le nom de Jésus. On a trop besoin de Tabitha. Et Pierre est venu et il a prié. Et on a la première résurrection dans le livre des Actes des Apôtres. C'est une femme. Bravo, mes sœurs, vous étiez première au tombeau du ressuscité. Et là aussi, est-ce que Dieu veut réveiller une femme ce matin? Est-ce que Dieu veut réveiller une femme ce matin qui a renoncé à elle, qui a renoncé à sa vie? Est-ce que Dieu veut relever une femme ce matin qui est à terre, qui ne croyait plus? Est-ce que cette parole aussi c'est pour toi? Femme, Tabitha, lève-toi de l'intérieur. Lève-toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Tu es irremplaçable. Tu as de la valeur. Et Dieu veut qu'on se souvienne de toi comme cela, comme Tabitha. Et de même, cette parole peut inspirer un homme. Et moi alors, si je suis un homme à terre ce matin, eh bien Dieu te dit, il peut aussi avoir une parole pour toi. Homme, lève-toi, car la gloire de Dieu, c'est de lever sa créature. C'est l'homme, la femme debout, restaurée. Un autre exemple. Waouh, le temps passe vite. Lydie. Ah, Lydie, une femme d'affaires. Une femme d'affaires incroyable. Le texte est un peu rapide. Ça se trouve dans Actes 16, versets 13 à 15. On va lire rapidement le texte. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de l'enceinte de la cité, au bord d'une rivière où nous supposions que les Juifs se réunissaient d'habitude pour la prière. Quelques femmes, des femmes, quand je dis chaque fois quelques femmes, entendez, des femmes, étaient rassemblées là. Nous nous sommes assis avec elles et nous leur avons parlé. Il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre, une femme d'affaires, nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire, en Asie mineure. Hein? Une non-juive qui adorait Dieu, une prosélyte. Elle était non-juive. Elle adorait le Dieu qui s'est révélé d'abord à Israël. Elle le recherchait. Sa soif n'était pas encore complète, puisqu'un jour elle écoutait et le Seigneur ouvrit son cœur, de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Elle fut baptisée avec sa famille et ceux qui en dépendaient. Puis elle nous invita en disant, « Puisque vous avez jugé que j'ai foi au Seigneur, venez, logez chez moi. » Et avec insistance, elle nous pressa d'accepter. Waouh! Rapidement, trois points que ce passage met en exergue. D'abord, je voudrais dire que Paul avait prié. Il avait prié et il prenait une direction. Le Saint-Esprit l'en a empêché. Et il a eu une vision. Il a vu un Macédonien, un homme, qui lui disait, viens ici, nous parler. Et il a pris la direction de Macédoine. Et le voilà qui arrive à Philippe, il se rend vers une rivière parce que, semble-t-il, une colonie de Juifs vivait dans cet environnement, proche d'une rivière pour des ablutions. Et surprise déroutante de Dieu, Ce sont des femmes. Une assemblée complète de femmes. Le Macédonien n'était pas un homme, c'était une assemblée de femmes. Et l'apôtre Paul n'a pas dit, non, je ne vais pas prêcher aux femmes. Je ne vais pas discuter avec elles. Au contraire, il y est allé. Et ils ont découvert que l'une d'entre elles, qui s'appelle Lydie, qui était une femme d'affaires, qui avait réussi économiquement ses affaires, sa vie, ce qui nous dit aussi quelque chose de nos représentations. On a toujours un peu le vieux système patriarcal dans la mémoire qu'on accuse, qu'on flagelle, etc. Mais regardez ici, une femme dont on ne sait pas très bien le statut, était-elle vierge, était-elle affranchie, quel était réellement son statut, peu importe l'apôtre, ce qu'il sait, c'est qu'elle avait une grande autonomie, elle travaillait, elle vendait du tissu, elle faisait de l'argent et elle influençait d'autres dames. Et alors il prêche l'évangile à cette influenceuse, femme d'affaires, et elle est convertie. Et parce qu'elle s'est convertie, elle lui ouvre la maison. Non seulement Dieu a ouvert son cœur, mais elle a ouvert sa maison. Dans notre église, nous avons, Loïc est où, je parle sous son contrôle, 10 ou 11 groupes de maisons, mon frère? 13 même déjà. 130 personnes en moyenne dans les groupes de maisons. Demain, nous avons une rencontre avec les responsables des groupes de maisons pour faire le point et continuer de prier. Des gens qui ont été touchés dans leur cœur, ont ouvert leur maison pour accueillir des frères et sœurs. Et le rôle des femmes à cette époque a également été déterminant, puisque nous voyons le livre des Actes et le Nouveau Testament mettre souvent en avant ce qui se passait dans les maisonnées. Il faut savoir que ce n'est qu'après le 3e siècle que les chrétiens ont commencé vraiment à se retrouver dans des bâtiments construits à cet effet. Mais la vie chrétienne, pendant les 3 premiers siècles, s'est pratiquement vécue dans les maisonnées. Est-ce qu'il y a des Lydie encore ici ce matin qui veulent ouvrir leur maison et commencer à prendre le café avec une, avec deux, avec trois, et de voir comment Jésus est en train de bénir les gens dans les maisons? Alléluia. Dans notre église, les groupes de maisons font partie de la vie pleine de l'église. Il n'y a pas que le culte. Nous sommes un peu plus de 200 là ce matin, mais en semaine, nous sommes 130 dispersés dans les maisons, vivant la joie de la communion fraternelle, pleurant parfois et étant consolés, recevant les paroles de l'Esprit, découvrant peut-être ce que l'Esprit dit aussi à l'autre par nous-mêmes. Waouh ! Que le Seigneur continue d'ouvrir nos cœurs. Donc, un auditoire de femmes, le Seigneur ouvre le cœur de Lydie, c'est la deuxième chose que le texte met en place. Et puis Lydie, troisième chose, ouvre sa maison aux envoyés du Seigneur. Et les maisons des femmes, vous pourrez relire le Nouveau Testament, vous retrouverez qu'il y a plusieurs femmes qui ont ouvert leur maison et cela a été d'un grand secours, y compris à des hommes. Par exemple, Marie, la mère de Jean, qu'on appelle aussi Marc, le neveu de Barnabas. Dans Actes chapitre 12, lorsque l'apôtre Pierre est délivré miraculeusement de la prison, eh bien, c'est chez Marie, la mère de Jean-Marc, qu'il va trouver refuge. Car chez Marie, la mère de Jean-Marc, de nombreux disciples, nous dit la Bible, se rassemblaient pour prier. Amen. Nous ne pouvons pas, si le Christ ne s'est pas coupé d'une partie de l'humanité, les églises ne peuvent pas se permettre de ne pas réfléchir à la place des femmes, à leur rôle. Un dernier exemple, et je vais y aller vite, c'est celui de Priscille et Aquilas. J'aurais pu uniquement parler de Priscille et Aquilas. Elle bat tous les records, Priscille. Elle est citée 6 fois dans le Nouveau Testament. 6 fois. Et vous savez, un fait étrange, c'est que 4 fois, son nom vient avant celui d'Aquilas, de son mari. Ce qui est une révolution qui ne se fait pas, ce qui est une inconvenance. En général, c'est le nom du mari qui venait avant. C'est d'abord Aquilas et Priscille. Alors certains manuscrits, certaines traductions ont essayé de parfois corriger et donc vous allez faire la recherche par vous-même et vous trouverez tantôt 4 fois Priscille et Aquilas ou 3 fois Priscille et Aquila, Aquila et Priscille. Peu importe. Nous ne devons pas aborder ces sujets comme le monde, par esprit de militantisme, de sexisme, d'opposition. Nous devons aborder ça comme l'Écriture nous le montre. Et c'est pourquoi je pense que l'exemple de Priscille, vous voyez, nous montre ce que je disais. Il ne s'agit pas de dire maintenant les hommes poussez-vous place aux femmes, mais il s'agit de voir que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions vivre pleinement nos ministères ensemble. Priscille et Aquila. Alors que moi, je m'attendais à ce qu'ils soient simplement cantonnés à la cuisine ou à l'école du dimanche pour les enfants, le texte biblique m'a surpris complètement. Parce que quand vous allez lire le texte biblique dans Actes chapitre 18, écoutez, il dit, Paul partit d'Athènes, hein, il fit la connaissance d'un juif nommé Aquilas, originaire du pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille. Je dois dire un premier commentaire. Priscille et Aquilas vivaient à Rome. Et le texte nous dit que sous l'empereur Claude, entre 46 et 49, les juifs ont été mis à la porte, chassés de Rome. Et mes amis qui ont connu le déracinement, qui ont dû être chassés d'un pays, qui ont dû partir en catastrophe, eh bien, Priscille et Aquilas doivent vous accompagner. Pensez à eux. Ils ont quitté Rome, chassés par l'empereur, à cause de leur judaïté. Ils étaient juifs. Ça se passe encore aujourd'hui, hélas. Et c'est grave. Mais ça se passe aussi pour d'autres qu'on chasse, à qui on dit « vous n'avez plus le droit de citer parmi nous ». Sans rentrer dans tous les débats politiques, c'est des hommes, c'est des femmes déracinées et qui vont vivre un exil avec tous les traumatismes que cela suppose. Eh bien, heureusement, par la grâce de Dieu, ils ne se sont pas arrêtés là, Priscille et Aquilas. Même si tu es exilé, même si tu as été déraciné, même si tu es réfugié, même si on te chasse, même si on te dit que tu n'as plus de place ici, Dieu, lui, il ne te dit pas que tu es disqualifié. Dieu peut t'utiliser. Et même si tu dois retourner dans ton pays, Dieu peut t'utiliser. Et c'est ce qui s'est passé avec Priscille et Aquilas. Ils quittent Rome, ils vont aller jusqu'à Corinthe où l'apôtre Paul les rencontre. Et les deux ont un ministère d'enseignement. Ils vont aller jusqu'à Éphèse où ils vont rencontrer quelqu'un qui s'appelle Apollos. Apollos était quelqu'un qui avait des talents d'enseignement et d'orateur, mais il avait quelques lacunes. Alors qu'il exposait la voix du Seigneur, Priscille et Aquilas l'écoutaient. Et la Bible nous dit que Priscille et Aquilas prirent Apollos et l'enseignèrent davantage, l'équipèrent davantage. Mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Une femme et son mari, ensemble engagés pour le Seigneur, dans l'accueil de leurs dons et le respect de leur singularité et de leur complémentarité. Oh, l'Église a besoin des couples comme ça. Des couples où Dieu est en premier, où le service de l'évangile est en premier, des couples où chacun trouve sa place. Alors souvent, et je vais rendre ici hommage à Nadia, parce que souvent on dit Paul et Nadia, le pasteur et Nadia. Alors Nadia n'est pas pasteur, c'est mon épouse, certes. Mais je crois que, à la vérité, peut-être que si certains devaient écrire, à un moment donné, ils diraient Nadia et Paul. Nadia et Paul. Je ne suis pas sûr que j'aurais duré dans le ministère si je n'avais pas eu Nadia dans ma vie. Je ne suis pas certain. C'est une femme de l'ombre, elle sera très gênée que je parle là d'elle. Mais combien précieuse, et je ne dis pas ça parce que j'aurais des choses à me faire pardonner. Je dis ça sans flatterie, parce que je le crois, et c'est important. Marie, célébrez vos femmes. N'empêchez pas le don que Dieu a mis en elle de s'exprimer. Accompagnons ça par nos prières. Il n'y a pas de rivalité, de concurrence. Sortons de ces clivages. Ce qui compte, c'est que chacun soit pleinement capacité pour accomplir ce pourquoi Dieu l'a appelé. Le temps nous manque, mais j'aurais pu vous parler de d'autres femmes dans la slide suivante. Juste les énumère et je vous donne les références et vous allez aller chercher. Phoebé, première femme nommée diacre, appelée diacre, au même titre qu'un certain nombre d'hommes, que d'apôtres même, à Sancré. Junia, le nom de notre dernière fille, dans Romains 16, avec Andronicus. Ça a fait écrire des livres. Femme très estimée parmi les apôtres ou femme remarquable d'entre les apôtres. Je vous laisserai aller faire vos recherches. Évodie et Saint-Tiche, l'apôtre Paul dit, qui ont combattu avec moi pour l'évangile. Et ce n'était pas un petit verbe. Elles ont lutté, elles se sont engagées, elles ont mouillé le maillot pour l'évangile. Elles n'avaient pas un rôle second couteau dans leur église. Elles étaient en avant aussi, au même titre que les autres. Romains chapitre 16, Philippiens chapitre 4, elles sont en difficulté et l'apôtre Paul dit à Timothée, je t'encourage d'essayer de faire que Évodie et Saint-Tiche qui ont combattu avec moi pour le Seigneur se réconcilient. Que le Seigneur nous aide à aller plus loin. Pardonnez-moi d'avoir pris un peu de temps. Je voudrais ramener la parole à David et prier pour que le Seigneur poursuive cet enseignement en nos cœurs. Seigneur, Nous avons parcouru à grands pas ta parole et nous sommes en tout cas touchés par l'appel commun que tu as adressé aux hommes et aux femmes qui se sont reconnus comme pécheurs et qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Merci pour ces hommes et femmes que tu as appelés et sur lesquels tu as fait reposer le même esprit, l'Esprit Saint qui les capacite. Seigneur, ma prière ce matin, c'est pour que les hommes et les femmes qui ont été au bénéfice de cette prédication puissent être inspirés, encouragés, motivés à vivre la plénitude de ton appel par la plénitude de ton Esprit Saint. Viens lever dans nos églises des Lydie, des Dorcas, des Priscilles, des Aquilas, des Junia, des Phoebé, des Évodie, des Saint-Tiche. Viens lever dans nos familles des enfants qui sont comme les quatre filles prophétesses de Philippe. Viens lever les couples qui se mettent au service ensemble pleinement. Viens lever les veuves pour que leur douleur, leur solitude ne signifie pas ton absence, mais au contraire la plénitude de ta grâce, de la persévérance dans laquelle tu les maintiens. Viens nous donner de leur faire place, de savoir accueillir les dons des uns et des autres. Au nom de Jésus. Amen.